France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
Haïti, pays le plus pauvre des Amériques. Haïti plongé dans la violence depuis des années, depuis des décennies même. Mais depuis plusieurs semaines, un nouveau cap est franchi. Selon l'ONU, plus de 8400 personnes ont été victimes de la violence des gangs en 2023, ayant été tuées, blessées ou enlevées. Une augmentation de 122% par rapport à 2022. Une réalité donc à Haïti, ou un horizon si peu lointain, la guerre civile. Pour comprendre ce qui se passe présentement, pour comprendre également les racines profondes de ces violences et de cette crise sans fin à Haïti, je reçois ce matin trois invités. Wilson Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant, sociologue à Paris Cité. À vos côtés, Jean-Marie Théodate, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences franco-haïtien, vous enseignez la géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et nous serons rejoints dans quelques instants par Sarah Château, elle est responsable des opérations à Haïti chez Médecins Sans Frontières. Depuis 2024, 1193 personnes ont été tuées à cause des violences des gangs. Est-ce que cette situation, Jean-Marie Théodate, est inédite et évidemment d'une gravité historique?
C'est une situation dramatique. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que nous pouvons véritablement perdre espoir, au sens que nous ne voyons pas d'où pourrait venir le secours, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et la violence dont vous faites état décrit en fait une situation de pays en guerre, alors qu'il n'y a ni conflit ethnique, ni conflit religieux, ni conflit territorial, ni même guerre de classe en Haïti. C'est l'image d'un État qui s'effondre.
Quelle est la nature de ce conflit, alors?
C'est une situation inédite, au sens que c'est la première fois que ce que l'on pourrait considérer comme un banditisme de type mafieux arrive à mettre à genoux des institutions républicaines dans un État établi, reconnu. Et ce qui se passe en Haïti n'est donc pas un acte banal, ce n'est pas juste la violence ordinaire d'un pays quelconque, mais au contraire un signe avant-coureur de ce qui menace les institutions démocratiques dans tous les pays libres.
Oui, celui, vous partagez plus d'ailleurs que ce diagnostic, ce sentiment, à savoir un manque d'espoir total?
Alors, face à cette situation, je pense que on est face à une situation assez difficile et très compliquée. Et je pense qu'il y a encore de l'espoir. Parce que il y a des initiatives qui ont été prises, ça fait quelques années. Et là encore, il y en a encore des associations, la société civile qui essaie de voir si on peut trouver des solutions par rapport à ce qui se passe en Haïti en ce moment. Mais comme vient de le dire, Monsieur Théodate, c'est très très compliqué en ce moment par rapport à la situation. Donc on est face à une situation où il n'y a plus d'institutions qui sont normalement visibles, qui existent. Le palais national, la primature, donc la question de la justice, la police. Donc ça veut dire qu'on est vraiment face à une situation assez compliquée. Mais je pense qu'il y a encore de l'espoir parce que on a vécu dans notre histoire des situations pas forcément sous cette forme, mais très compliquées, mais on arrive à s'en sortir. Je pense que vu la mobilisation à la fois des Haïtiens qui sont sur place, des Haïtiens qui sont à l'étranger, il y a possibilité de trouver une solution, même si c'est très difficile, on ne voit pas vraiment en ce moment comment on va faire, mais je pense qu'il y aura des possibilités de trouver une solution.
Sarah Château, vous êtes responsable des opérations Haïti, notamment chez Médecins Sans Frontières. Aujourd'hui, à Port-au-Prince et au-delà dans le pays, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation sociale qui traverse le pays ?
Alors bonjour, la situation là-bas, elle est catastrophique. En témoigne nos collègues qui essayent de maintenir notre activité médicale. C'est très compliqué de se déplacer pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi financières. Tous les prix ont flambé, le prix de l'essence, des transports, mais aussi de la nourriture. Il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas accès à l'eau actuellement. La DINEPA, la Société des Eaux, n'arrive pas à circuler comme elle le voudrait dans tous les quartiers de la ville pour pouvoir lancer les générateurs et faire fonctionner les différents forages. Donc on est vraiment dans la crainte de maladies épidémiques, dans la crainte d'un nouveau pic de choléra, de problématiques de malnutrition aussi. Tout ça dans un contexte où les combats sont incessants et on reçoit tous les jours de nombreux blessés par balle dans nos structures.
Il faut d'ailleurs préciser tout de suite que les bandes criminelles contrôlent aujourd'hui 80% de la capitale. Port-au-Prince, comment est-ce que cela se manifeste, Jean-Marie Théodat ? Comment ce contrôle urbain prend forme ?
Il faut ici se représenter Port-au-Prince comme une agglomération établie au fond d'une cuvette, avec une entrée sud facile à contrôler entre la montagne et la mer. Et c'est d'ailleurs comme cela que les gangs ont commencé par exercer leur emprise, en contrôlant les faubourgs de Carrefour et de Martissan. Puis l'entrée nord, là encore, c'est une gouttière entre les collines de la chaîne des Mateux et la mer. Donc, par les deux extrémités, nord-est, nord-ouest et sud-ouest, c'est très facile de contrôler Port-au-Prince. Et après, il y a l'est, en direction de la République dominicaine, où ils sont arrivés aussi. Donc, il faut dire que c'est un dispositif en fer à cheval qui a consisté à quadriller le territoire. Et aujourd'hui, lorsque nous disons 80% du territoire sont sous le contrôle des gangs, ça veut dire que le reste, les 20%, sont sur le qui-vive. Et il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de paix civile. J'étais en conversation hier avec un ami qui est lui-même d'un certain âge et qui m'a dit qu'il a dû mettre sa femme à l'abri dans un espace où, en cas de danger, il pourrait se sentir mieux protégé, et lui-même restant à la maison pour garder les meubles, pour s'assurer que personne ne rentre. Si vous voulez, c'est une situation obsessionnelle où, en fait, le sommeil est perdu pour tout le monde.
Oui, celui-là aussi, pour qu'on se représente les choses, quelle est l'action, la nature concrète de l'action de ces gangs ? Qu'est-ce qu'ils attaquent ? Qu'est-ce qu'ils visent concrètement ?
Alors, avant même de voir qu'est-ce qu'ils visent, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gangs se sont fédérés en 2020. Et avec la présence de l'ONU, c'était pour la représentante de l'ONU de l'époque un bilan positif. Parce qu'elle s'est félicitée à l'ONU pour dire que nous arrivons à voir que les gangs se sont fédérés. C'était quelque chose de positif. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, en 2020, les gangs commencent à prendre beaucoup plus de l'espace et à contrôler beaucoup plus d'espace. Et à ce moment-là, ils commencent à se mettre en force et à avoir un porte-parole et en même temps pouvoir mieux contrôler le territoire.
Pardon, je me permets de vous couper. Oui. Pour bien comprendre ce que vous dites, comment l'ONU peut-elle considérer que ces gangs fédérés sont une bonne nouvelle pour le pays ?
C'est toute la problématique. Comment, à l'Assemblée de l'ONU, une représentante peut se féliciter de voir que les gangs se sont fédérés, même si c'est une fédération qui a été réalisée sur le gouvernement à l'époque. Mais on voit que c'est la question qu'il faut se poser, c'est comment à partir de 2020, ce rapport de force que les gangs commencent à comprendre, il n'y a pratiquement plus de guerre entre les gangs. Donc maintenant, ils commencent à s'organiser, à prendre de l'espace, à essayer d'avoir un porte-parole et en même temps, de plus en plus, 2021-2022, ben là maintenant ils commencent à prendre de l'espace, à mieux contrôler le territoire. Ça veut dire que à partir de cette fédération des gangs, quand on observe de près, on pourrait dire ben il y avait toujours des gangs en Haïti, mais à partir de cette fédération, les gangs commencent à monter en puissance et c'est de là tout se passe. Ils commencent vraiment à contrôler pratiquement 80% du territoire de Port-au-Prince.
Alors, quelle est leur action concrète ? Qu'est-ce qu'ils visent ? Quelles institutions, justement, ils attaquent régulièrement ?
Eh bien, figurez-vous, bien avant, les institutions qui s'étaient attaquées systématiquement, c'était la police. Bien avant, c'est la population dans son ensemble, parce que c'est la population que, dans la majorité des cas, les cas de kidnapping, des cas de viol, des cas de personnes qui sont tuées, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, des enfants aussi qui sont tués. Ça veut dire que c'était la population qui était visée. C'est pour ça que la notion de guerre, pour moi, ça pose un petit peu de problème. Donc, c'est des gens qui essayent d'attaquer pour rançonner la population, surtout à partir des cas d'enlèvement, de kidnapping. Et de plus en plus, lorsqu'ils commencent à prendre de la force, ils commencent à se séparer du gouvernement en place, et à partir de là, ils commencent à attaquer les autres institutions qui sont établies. Mais la police, c'était le cible visible.
Sarah Chateau, comment est-ce que vous décririez vous-même l'action de ces gangs sur les institutions et sur la population haïtienne?
Les gangs sont très présents, comme ça a été décrit, partout en ville. Il y a des actions qui... Il y a des combats, des conflits qui sont menés régulièrement entre eux déjà depuis plusieurs années maintenant. Nous, ça fait plus de 5 ans qu'on a un hôpital où on prend en charge les blessés par balles, et on voit arriver en permanence des femmes, des enfants, même des hommes qui sont juste victimes de cette guerre de gang, et qui depuis là, ces dernières semaines, ont pris un nouveau tournant avec cette coalition du vivre ensemble, qui donne aussi une autre dynamique, et où ils sont tournés plus à la police. Mais c'est vrai que ça a créé des problématiques pour nous de circulation et d'espace humanitaire, parce qu'en réponse à ça, il y a eu aussi tout le mouvement Bois-Calais qui s'est constitué depuis maintenant à peu près un an, avril l'année dernière, avec la population civile qui se regroupe en milice et qui essaye de défendre ces quartiers. Mais dans cette action de défense, elles attaquent aussi finalement. Et donc du coup, on a plusieurs barrages, plusieurs groupes. On a la police, on a la Bois-Calais, on a les gangs. Et il faut, quand on circule une ambulance au sein de Port-au-Prince, d'un hôpital à un autre, il faut négocier avec tous ces acteurs-là. Ça complexifie vraiment notre possibilité de pouvoir, nous, déployer des réponses humanitaires.
Je voudrais citer l'un des chefs de gang les plus célèbres, Jimmy Cherizier, dit aussi barbecue. Il expliquait « Soit Haïti devient un paradis pour nous tous, soit elle devient un enfer pour nous tous », Jean-Marie Théodat. Est-ce que c'est rhétorique, cette façon de mobiliser un discours en apparence social, est pour vous fondée? Est-ce que la véritable ambition de ces gangs, au fond, c'est de rétablir l'ordre et la justice?
En horlogerie, on dit que même une montre cassée finit par donner l'heure exacte au moins 2 fois, toutes les 24 heures. Donc, à son corps défendant, Jimmy Cherizier dit vrai, au sens que soit Haïti sera un enfer, en fait il l'est déjà, l'alternative c'est de transformer cet enfer en paradis pour tous. Le paradis, je crois pas trop, mais l'enfer, nous y sommes. Et Lucifer, en l'occurrence, c'est lui. Et ce qui est frappant dans son discours, c'est quand même cette conscience qu'il a de représenter le mal absolu, et cette conscience qu'il a aussi que ce mal absolu ne peut pas être revendiqué en tant que tel. Et là, nous touchons à, je dirais, une vérité philosophique qui est que même le pire des assassins a à cœur de passer aux yeux du reste du monde comme un enfant de cœur. C'est comme si Pablo Escobar se présentait devant nous avec le discours de Che Guevara en disant « Vive la Révolution ». Et c'est là qu'il faut être à la fois lucide et vigilant pour justement déconstruire ce message et restituer Jimmy Cherizier, alias Barbecue, à ce qu'il est, c'est-à-dire le pire des assassins que nous ayons connus sur les 50 dernières années.
Alors racontez-nous justement qui il est, ce Jimmy Cherizier, alias Barbecue, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas.
Alors pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, celui-ci est entré dans dans les annales de la République comme un simple policier, membre du corps des UDMO, unité de défense qui est une sorte de corps d'élite de la police d'Haïti. Il faut rappeler que depuis 1995, il n'y a plus d'armée en Haïti, et que la police dont nous parlons est aujourd'hui un corps réduit comme une peau de chagrin, à peine 6 000 ou 7 000 agents actifs pour une population de 12 millions de personnes.
L'armée a été démantelée, en effet, par peur des coups d'État.
Par peur des coups d'État, mais en perdant le monopole de la violence légitime, l'État a assisté à la dilution de cette fonction régalienne entre les mains de milices, de gangs, d'agences de sécurité, qui sont en fait des ersatz de bandes criminelles qui aujourd'hui circulent comme des violons sans maître. Et Jimmy Cherizier, en tant que policier, est devenu l'un des membres les plus visibles, les plus agités d'une bande de criminels appelée les 400 Marozos, ce qui est une façon de dire les 400 les 400, il faudrait traduire ça en français, c'est, on est loin des 400 coups là, hein. Ce sont plutôt les 400 enragés, on va dire, et qui ont d'abord fonctionné comme une bande supplétive pour commettre les bases œuvres d'un régime de plus en plus autoritaire sous le gouvernement de Jovenel Moïse. Et il est responsable du massacre de La Saline, où plus de 80 personnes ont été non seulement massacrées, mais torturées, passées à la machette, dont certains ont été grillés, ce qui, a posteriori, justifie le nom de barbecue. Et celui-ci a été à l'origine d'opérations de descente sanguinaire dans les quartiers du Bel Air, de Delma, et qui, à chaque occasion, ce sont des viols collectifs de femmes, d'enfants, des actes de torture d'une horreur sans nom, avec en plus la diffusion de ces actes-là sur les réseaux sociaux par des criminels en train de se filmer eux-mêmes. C'est dire donc que nous n'avons pas affaire à un révolutionnaire du type guérillero des années 60, mais à un bandit, un criminel qui se fait passer pour Robin des Bois.
Oui, Soloui, comment est-ce qu'on explique que cet homme, Jimmy Cherizier, et au-delà, l'ensemble des gangs, puissent agir sans être réprimés? Je vous donne un exemple, Jimmy Cherizier, on sait où il vit, on sait où il habite, il serait facile pour l'État haïtien de l'arrêter, et pourtant, rien ne se passe.
Alors, je vais juste retourner quelques secondes sur le discours de Barbecue, ce bandit. Alors, il faut observer bien, il y a un discours où ils veulent légitimer leur action. Donc ça veut dire que ils cherchent aussi à essayer de voir s'ils peuvent participer aussi au niveau des discussions, des négociations. Ça veut dire que on est face à un déplacement des bandits qui veulent se faire passer pour des rebelles. C'est pas du tout le cas en Haïti. Pas du tout. Ils sont pas des rebelles. Ce sont des bandits qui massacrent la population, qui font des viols collectifs et autres. Donc, par rapport à votre question, donc on sait où il habite. Mais ce qu'il faut considérer aussi, à un certain moment, il était proche, si je pourrais le dire ainsi, proche du gouvernement. Donc participer dans des massacres, d'autres bandits qui participent dans les massacres, le pouvoir en place utiliser ces gangs pour, je dirais, contrecarrer des mouvements de manifestation, les mouvements contre la corruption en 2019-2020 concernant le fonds pétro-caribé. Donc ça veut dire que le gouvernement s'en servait de ces groupes-là pour pouvoir se protéger. Donc à un certain moment, il commence à prendre de la place dans les rapports de force. Donc là maintenant, la police, par rapport à la situation actuelle, donc une situation, je veux dire, un petit peu compliquée, mais si on observe pendant ces derniers jours, comment la police commence à reprendre de l'espace, mais affronte directement certains chefs de gang en ce moment, qu'on peut observer dans certains endroits à Port-au-Prince. Ça veut dire que il faut essayer bien voir les discours, comment ça se déplace, et ce discours arrive même à une ancienne responsable de l'ambassade américaine en Haïti qui dit qu'il faut les prendre en considération dans les discussions. Ça veut dire que on voit comment se déplacent les discours pour considérer des chefs de gang qui devaient être directement à la prison comme des rebelles. Or, pourtant, ils ne sont pas des rebelles. Ce ne sont pas des gens qui attaquent les institutions étatiques pour essayer de prendre le pouvoir et autres. C'est la population directe. Donc, ça veut dire que la population, là où ils habitent, sont sous leur contrôle. C'est eux qui décident.
Jean-Marie Théodat, la grande crise que l'on n'a pas encore mentionnée dans cet échange, c'est la crise politique. Aujourd'hui, la plupart des fonctions électives sont vacantes. Le Premier ministre lui-même, Ariel Henry, a démissionné. Comment est-ce que vous caractériseriez, vous, cette crise politique?
Pour utiliser une métaphore astronomique, on va dire qu'Haïti est un trou noir. Un trou noir, c'est lorsque un soleil en fin de vie, a épuisé toute sa réserve de carburant et que une implosion se produit et que dans son effondrement, cet astre mourant entraîne dans son sillage toute matière, y compris la lumière, parce que ça atteint une telle densité que il n'y a pas d'issue possible. Haïti, c'est un soleil au sens que ce pays a été pour le reste du monde, pour l'Afrique en particulier, pour les afro-descendants, pour les peuples en lutte, un modèle, un soleil, un idéal, au soleil d'Haïti, beaucoup d'autres nations ont redoré leur blason. C'est un élément important. Et cet effondrement se traduit par l'assassinat d'un président depuis 3 ans. Et il n'y a aucune enquête sérieuse pour en punir les vrais assassins, les commanditaires. Il y a quelques pantins qui ont été mis en prison, y compris aux États-Unis, mais le cœur, on va dire, le cerveau de l'affaire reste encore derrière les rideaux. Un premier ministre qui, pendant 3 ans, s'est installé au sommet de l'État sans vergogne, avec un mandat qui est plus que douteux. Il n'y a plus de parlement. Et les sénateurs, les députés qui étaient encore en fonction sont, pour un certain nombre, éclaboussés dans des histoires d'argent sale. Certains sont même indexés par le Canada, les États-Unis pour être membres directs de ces gangs qui ensanglantent le pays. C'est-à-dire donc un personnel politique totalement déconsidéré. Pas d'élection municipale. Donc un vide institutionnel qui laisse le pays justement sans perspective. Et on se retrouve dans l'impasse où il faudrait des élections pour avoir un pouvoir légitime. Or, de telles élections ne sont possibles que s'il y a une paix civile qui autorise de telles élections. Donc, qui de la poule et de l'œuf a commencé? Et c'est là le problème.
On va poursuivre cette discussion avec vous trois, Will Soloui, Jean-Marie Théodat, Sarah Chateau. À 8h20, on essaiera de remettre un peu d'espoir tout de même dans cette conversation en essayant de tirer les fils des solutions possibles. Il est 7h54 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
Suite de notre conversation sur Haïti, sur la crise politique et sécuritaire que ce pays traverse d'une façon historique et dramatique. Et pour en parler, je reçois ce matin 3 invités. Will Soloui, doctorant sociologue à Paris Cité. Jean-Marie Théodat, maître de conférences franco-haïtien. Il enseigne la géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ainsi que Sarah Chateau, responsable des opérations Haïti chez Médecins Sans Frontières. Sarah Chateau, lorsqu'on dit que lorsque le pays traverse une crise sécuritaire, d'abord sécuritaire, est-ce qu'on voit juste? Est-ce que c'est d'abord une crise des gangs, une crise de la sécurité?
La crise, elle est vraiment multiple. Je pense que au niveau maintenant où la population en est, la crise, elle est clairement sécuritaire, mais elle est aussi énormément humanitaire et c'est lié. C'est, je pense, compliqué de devoir la nommer, la classer dans une catégorie. Les impacts et les conséquences de la tourmente dans laquelle vit la population sont énormes et je pense qu'on n'en est plus à dire cela va devenir une crise humanitaire. On est déjà dedans. La population, comme je le disais tout à l'heure, souffre d'un manque d'eau dans certains quartiers. La nourriture n'est pas accessible en quantité suffisante. Les conditions de vie sont dramatiques avec des risques de maladies endémiques. Donc je pense qu'on est sur vraiment une crise multifactorielle.
Jean-Marie Théodat, je voudrais qu'on revienne aux racines historiques de cette crise. On parle beaucoup des gangs aujourd'hui, mais ces gangs, ils ont une place centrale, prépondérante dans l'histoire récente du pays, et ce sans doute depuis au moins 50 ans.
Lorsque nous parlons de gangs, c'est-à-dire en fait de bandes organisées,
criminels
organisés, il y a un spectre extrêmement large. Cela va de la bande formellement organisée par un pouvoir, cela s'appelle une milice, et cela s'est vu en Haïti dès les années 60 avec Papadoc, alias François Duvalier, qui avec ses tontons Macoute a mis le pays sous coupe réglée, et cela jusque dans les années 1986 avec la chute de la dictature. De 1986 à 1990-91, il y a une période de transition vers la démocratie plus ou moins sanglante, marquée par des coups d'État militaires où ce sont toujours donc c'est toujours l'armée, les forces armées d'Haïti qui sont en première ligne. Elles vont en 1991 organiser un coup d'État contre le président démocratiquement élu, le premier vraiment démocratiquement élu de toute notre histoire, et ce coup d'État va durer jusqu'en 1994, inspirant en 1994-95, justement au retour du président Aristide, une décision fatale qui est celle de dissoudre les forces armées d'Haïti. Concrètement, cela veut dire faire disparaître le thermomètre qui permet en fait de donner la température et non pas faire disparaître la cause du mal. Parce que en perdant le monopole de la violence légitime, l'État s'est trouvé à la merci justement des gangs, des bandits, des milices de toutes sortes qui se sont constituées parce que les hommes d'affaires, les banques, certains politiciens, certains partis politiques ont eu à cœur d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Et c'est dans cette marge qu'il y existe entre une compagnie de sécurité et une bande de criminels que se trouve le biais. Et c'est par là que les gangs utilisés sciemment par les différents pouvoirs depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec une prolifération dans les années 2000, dans les quartiers populaires, où l'on a vu apparaître des bandes de jeunes gens armés jusqu'aux dents qui opéraient contre les opposants du régime. Et ceci s'est répété à une échelle grandissante. De sorte qu'aujourd'hui, les gangsters sont devenus une sorte de lieu de rencontre de tout ce qui conspire à l'échec de l'état de droit en Haïti. Aussi bien ce qu'on appelle les criminels en sapate, c'est-à-dire en savate, que les criminels en cravate. Et à ce titre, on peut dire que Ariel Henry d'un côté et Jimmy Chérizier de l'autre, ce sont les deux faces d'une même médaille.
Ariel Henry étant le Premier ministre qui a récemment démissionné. Et celui que vous énoncez en face, dit alias Barbecue, l'un des chefs de gang les plus célèbres du pays. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous raconter, Jean-Marie Théodate, c'est qu'au fond, l'État haïtien, les différents régimes politiques qui se sont succédés depuis les années 60-70, ont eux-mêmes produit, soutenu ces gangs et ces milices armées.
Alors, non pas l'État, mais les gouvernements successifs.
Les régimes, exactement.
Les régimes qui se sont succédés, des régimes de plus en plus, d'abord dictatoriaux, avec les Duvaliers, mais de plus en plus autoritaires, par justement l'incapacité à franchir le pas d'une démocratisation de la vie politique. Et cela se traduit également par une sorte d'imbrication progressive entre l'élite et la pègre. Aujourd'hui, l'élite a été remplacée par la pègre à la place du pouvoir, et c'est cela qui a entraîné la gangrène de l'espace public en Haïti.
Wilson Louis, du point de vue historique, mais également sociologique, comment ces groupes-là criminels ont-ils réussi à prendre une telle place dans la société haïtienne ?
Alors, je pense qu'il y a un point important qu'il faut signaler, c'est qu'en Haïti, il n'y a pas d'industrie d'armement ni de munitions. C'est une première question importante à se poser, c'est de dire comment ils arrivent à s'approvisionner, ces gangs-là. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un marché qui s'est créé avec la République dominicaine qui est à côté, Jamaïque et les États-Unis. Donc, comment on arrive à faire passer des armes, des munitions? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils arrivent toujours à avoir tous ces munitions pour qu'ils puissent continuer à faire leur exaction. Donc, ça veut dire que autre chose qu'on pourrait observer, depuis après les, à chaque fois, il y a une intervention militaire en Haïti. En 1994, 2004, jusqu'à 2006, on voit qu'il y a une sorte, il y a une diminution des gangs, mais après, quand ils partent, et les gangs, on les revoit apparaître avec d'autres armes mieux armées. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours derrière cette question des interventions militaires qu'on observe en Haïti. Et derrière aussi, il faut dire, quel lien existe entre toutes ces interventions militaire comme hypothèse et en même temps comme la communauté internationale qui est présente depuis la communauté internationale sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour qu'on puisse essayer à résoudre ce problème. Donc c'est des interrogations qui demandent qu'on pourrait pousser un peu plus loin. Et au niveau historique, comme Théodate l'a déjà dit, mais sociologiquement, c'est que ces gangs, ils arrivent à imposer leur pouvoir sur la population civile, ce qui fait que on est dans une situation où les institutions ne peuvent pas répondre aux besoins de la population, donc c'est eux qui donnent les commandes. C'est pour ça dans certains quartiers, on dit qu'il y a pas, il y a des gens qui sont innocents, mais ils peuvent pas ni les affronter ces gangs ni essayer de les dénoncer parce qu'ils sont, ils sont sous l'emprise de ces gangs. Donc ça veut dire que ça pose vraiment une question de la situation sociale qui se pose aussi par rapport à cette situation de gang.
Sarah Chateau, sur le terrain, à Haïti, comment est-ce que vous garantissez la sécurité des personnes qui travaillent pour Médecins Sans Frontières aujourd'hui ?
Alors la sécurité n'est pas totalement et complètement garantie à 100%. Il y a vraiment une prise de risque et c'est là-dessus qu'on informe régulièrement toutes nos équipes, qu'elles soient expatriées ou nationale, haïtienne. Après, nous, ce qui est important, c'est vraiment de maintenir le dialogue avec tous les acteurs, les membres de gangs, les milices, les autorités, la police. Les incidents et les arrestations et les fouilles et les attaques viennent un peu de toutes parts. Et donc, c'est vrai qu'on est, dans un dialogue permanent pour nous faire connaître, pour faire connaître notre activité. Et ce qui est important aussi, c'est notre capacité à pouvoir nous déployer, à répondre. Je pense que Médecins Sans Frontières est reconnu aussi à Haïti sur le fait qu'on n'a jamais suspendu nos activités autrement que pour des incidents graves. On les reprend et quand il y a des besoins, on monte en capacité. Par exemple, là, depuis fin février, début mars, on a ouvert un nouvel hôpital pour prendre en charge les blessés. On a rajouté plus de 25 lits dans celui qui était déjà ouvert. C'est vrai qu'on voit, on a une capacité à répondre aux urgences et à pouvoir se déployer dans ces cas-là, qui fait aussi notre acceptance.
Jean-Marie Théodate, cette crise, elle concerne Haïti, elle concerne les Haïtiens en premier lieu. Et pourtant, depuis des années, des décennies maintenant, plusieurs pays semblent s'impliquer directement dans les affaires du pays. Au premier chef, les États-Unis qui manœuvrent en soutien peut-être depuis plusieurs semaines parce qu'ils voudraient qu'une transition démocratique véritable puisse se faire. Quel est l'intérêt des États-Unis à s'impliquer dans les affaires haïtiennes aujourd'hui ?
Il y a une situation paradoxale en Haïti. C'est un pays formellement indépendant, souverain, mais qui n'a aucun contrôle de sa politique étrangère et qui a totalement perdu les manettes sur le plan intérieur.
Qui n'a pas même le contrôle exactement des affaires régaliennes, puisque le pays a dû faire appel aux forces de police du Kenya pour maintenir la sécurité du pays.
En fait, les États-Unis ont désigné le Kenya pour pour prendre en charge la mission de l'ONU, et le Kenya n'arrête pas de multiplier les manœuvres dilatoires pour ne pas justement exécuter cette mission. Et en fait, Haïti est un pays situé dans le giron les États-Unis dans sa proximité géographique immédiate, mais aussi un pays de fait sous tutelle américaine, même si nous n'avons pas les avantages justement d'une occupation réelle. C'est-à-dire Haïti serait Porto Rico avec une telle implication des gangsters et des mafieux, on demanderait à la police fédérale de faire le ménage. Haïti serait la Martinique ou la Guadeloupe avec une telle bandification de l'espace public, on demanderait à la gendarmerie nationale de nettoyer les écuries d'Ogias. Tandis que Haïti, étant formellement un État indépendant, on demande aujourd'hui aux Haïtiens de s'entendre avec les bandits. C'est-à-dire ceux-là même qui organisent en sous-main, en filigrane, l'introduction des armes, des munitions. Et Wilson le disait tout à l'heure, Haïti ne produit ni armes ni munitions. Et ce n'est pas avec moins de 2 dollars par jour, qui est le seuil absolu de pauvreté, où vivent 30% de la population d'Haïti, que ces pauvres gamins, en fait, ce sont des victimes d'une violence symbolique inscrite dans notre histoire depuis des siècles, qui sont aujourd'hui lâchés comme des chiens enragés dans la rue. Donc, les États-Unis, qui devraient prendre leur responsabilité historique.
De quelle façon ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, les États-Unis ?
Ne serait-ce que limiter l'introduction de ces armes, de ces munitions en Haïti. Un meilleur contrôle de leur cargaison. Ce serait, je dirais, un geste simple. Parce que ces mêmes armes viendraient de Cuba, par exemple, pour alimenter une guérilla en Haïti. On trouverait naturellement le moyen de le stopper. Mais comme cela vient des États-Unis, ce serait en principe beaucoup plus facile. Or, rien n'est fait pour stopper cela, les Américains non seulement alimentent le pays, les Américains de façon générique, on va dire l'Amérique, nourrit Haïti en armes, en munitions, et surtout en bandits et en brigands qui, lorsqu'ils ont purgé leur peine dans les prisons américaines, comme c'est le cas de Guy Philippe, nous sont refourgués pour être recyclés comme hommes politiques, et on nous demande de nous asseoir avec ces gens-là pour décider de l'avenir du pays. C'est une immense pantalonnade, et nous estimons que le leadership américain règne surtout en Haïti par son absence.
Will Solou, une réaction, et au-delà, comment est-ce que ces bons conseils, ces interventions venues de l'étranger sont-ils perçus par la population haïtienne?
Je pense que ça fait longtemps qu'on est dans un rapport de colonialité de pouvoir par rapport à la communauté internationale. Moi, je dis souvent, comme certains amis, la communauté internationale nomme, révoque et remplace en Haïti. Et ça, on pourrait le dire. Où est passé le Premier ministre? Il est où? Donc, c'est une question qu'on pourrait se poser. L'aéroport fonctionne en Haïti, l'aéroport du Cap fonctionne. Il y a des hélicoptères qui rentrent. Mais le Premier ministre, il est où avec les autres ministres? Donc, c'est une question assez fondamentale. Donc, ça veut dire que depuis la première occupation américaine, 1915-1934, on est dans un rapport, une situation de domination par rapport aux États-Unis. Mais pas seulement les États-Unis, parce que les autres pays, ils ont formé un syndicat qui s'appelle quoi? Groupe en Haïti. L'ensemble des ambassades, c'est eux qui décident dans les réunions. Ils invitent les dirigeants donc pour qu'ils puissent essayer de trouver des solutions. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation de dépendance où c'est très difficile pour qu'on puisse prendre des décisions en dehors de ces groupes-là. Sur le cas des États-Unis, donc on pourrait se demander quel est l'intérêt. Mais pourquoi, après avoir fini de juger certains bandits aux États-Unis, ils rentrent en Haïti? Donc c'est à partir de là, on commence à ceux qui ont l'habitude de participer dans de groupes mafieux aux États-Unis, ils commencent à s'installer en Haïti pour qu'on puisse s'organiser. Et de là étant, on est vraiment dans cette situation où vraiment le pays est gangsterisé.
Sarah Chateau, en Haïti, est-ce que le tissu associatif humanitaire est soutenu par les États-Unis, par d'autres pays étrangers, ou est-ce que vous êtes au fond un peu laissé seul?
Alors, il y a plusieurs, comme dans tous les pays, je pense, dans toutes les crises humanitaires. Il y a tout un tas de bailleurs qui financent différentes ONG. Nous, c'est vrai qu'à Médecins Sans Frontières, on est indépendant financièrement. C'est vraiment que l'argent des donateurs qui nous permet aussi de ne pas dépendre des différentes politiques et aléas. Mais pour autant, on discute régulièrement avec les principaux bailleurs, dont les États-Unis, pour pousser à renforcer le tissu associatif qui est très, très, très faible par rapport à l'ampleur des besoins et de la crise. Pour autant, je pense que c'est pas uniquement une question de financement. Ça l'est, clairement, il en manque. Il y a une problématique de durée des financements qui sont sur du court, alors que c'est une crise qui dure maintenant depuis plusieurs années. Un niveau de sécurité, des conséquences qu'on voit maintenant depuis plus de 3-4 ans. Mais c'est vrai que la sécurité est aussi l'un des enjeux pour les associatifs de pouvoir se déployer à la hauteur de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on pourrait faire.
Jean-Marie Théodate, évidemment, du point de vue de la France, la culture, la poésie haïtienne tient une place prépondérante. Je vous ai proposé, en amont de cette émission, de nous faire une lecture d'un texte haïtien. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par cette lecture et expliquer ensuite pourquoi vous l'avez choisi?
J'ai marché dans le village. Je n'ai pas senti de violence ni de curiosité déplacée dans les regards. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'imagine qu'il est rare de se retrouver dans un lieu inconnu en étant d'une autre culture, d'une autre couleur, et de se sentir accueilli comme si sa présence sur cette nouvelle terre était une chose naturelle, une chose simple allant de soi, comme le lever du jour ou le coucher du soleil. C'est moi, toute seule, qui ai fait l'effort de me rappeler que j'étais étrangère, pour ne pas faire comme si j'avais tout compris. Avant même de prendre l'avion, je me doutais bien de l'impossibilité de mesurer l'écart entre ma ville et la tienne. Quand tu me dressais l'inventaire des bruits de la rue, je m'étonnais que les avertisseurs soient pour vous plus efficaces que les feux, et de mille autres petites choses. J'ai réalisé aussi que le pain du jour n'est pas chose gagnée pour tous. Ici, les choses dont vous devez manquer, je ne parviendrai pas même à les énumérer. Ici, dans le village, rien qu'en marchant, j'ai pu constater tout ce vide à l'intérieur des maisons. Je ne puis être qu'étrangère à cette pauvreté. Mais l'envie m'est venue d'entrer dans les maisons. Les regards m'y invitaient. J'ai reconnu celle de Justin, solitaire au bord de la grande route. J'ai frappé à sa porte et il m'a invité à entrer. Nous nous sommes assis sur la galerie et il m'a offert de son thé de corossol. Je ne connaissais pas ce fruit. Je m'attendais à un vieil homme. L'idée qu'on se fait de la chasesse, c'est un vieux monsieur qui bouge à peine. Il n'est pas si vieux, mais plutôt costaud. Il m'a expliqué qu'il avait appris à lire à l'école du chef-lieu de département et qu'il avait ensuite choisi de revenir. Il est le Socrate de son village côtier. Cette manie d'inventer des lois, il me dit l'avoir contractée en jouant à l'instituteur avec les enfants. Les enfants d'il y a 20 ans, la moitié est partie ailleurs et la moitié qui est restée mène sa vie de pêcheur et lui amène ses enfants. Il leur enseigne le peu qu'il sait et apprend beaucoup d'eux.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire ce texte que vous avez lu et pourquoi vous avez fait ce choix-là ?
Il s'agit donc d'un extrait de La belle amour humaine de Lionel Trouillot, un ouvrage de 2011, juste après la catastrophe du tremblement de terre de 2010, et qui raconte l'itinéraire d'une femme, une occidentale, qui se retrouve dans un petit village à côtier dans le nord de Port-au-Prince, en affoleur, où, tout en essayant de reconstituer les trames d'un crime, elle cherche en fait ses racines, à la recherche de son père, qu'elle n'a pas connu. Et c'est une histoire emblématique de cette Haïti cachée, de cette Haïti occulte, de cette Haïti profonde, qui est une terre d'accueil, une terre de lumière, une terre de culture. Et justement, c'est un parcours initiatique, au sens que... Pourquoi avoir choisi justement ce passage de Lionel Trouillot ? C'est dire que, au-delà du crime, qui est le motif principal du roman, il y a la rencontre avec un peuple, la rencontre avec une humanité qui est pétrie de lumière, une humanité qui est née justement sur le principe du refus de l'inégalité, du refus de l'indignité, du refus de l'esclavage. Une humanité qui est fondée sur ce que j'appellerais les trois vertus que nous avons reçues en héritage de l'Afrique. L'intelligence pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le courage pour faire face aux situations difficiles. Et la bonté pour partager les bienfaits de la vie.
Merci à tous les trois. Merci aussi d'avoir énoncé ces trois vertus dont on espère qu'elles viendront en aide à Haïti. Et merci beaucoup donc à Will Soloui, Jean-Marie Théodat, Sarah Château d'être venus nous parler des crises d'Haïti, mais aussi de la lumière peut-être qui affleure au fond de cette histoire. Vous écoutez France Culture, il est 8h43.